d'autres responsables d'église et avec d'autres missionnaires, des collègues à moi. Et voilà, on nous a dispatchés dans les différentes églises. Donc, j'ai déposé un collègue qui va prêcher à Dieppe ce matin. Moi, je prêche ici à Shédiac. Il y a un autre qui est allé à Edmundston. Et puis, il y a un autre qui va parler, qui va prêcher à Beresford. Donc voilà, on est dispatché ce matin. Voilà. Mais ce matin, j'aimerais parler avec vous un petit peu avec de la parole ici. Je vais changer le slide là et je vais mettre le message. Voilà. Des rencontres avec Jésus. Et comme je suis bilingue et je prêche parfois dans d'autres endroits, je mets en français, en anglais, comme ça, voilà. Des rencontres avec Jésus. Et comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, c'est ma première fois en Nouveau-Brunswick, en Acadie, et c'est la première fois, ça a été toujours un rêve pour moi, de retourner à la source de ma famille. Et quand je vais appeler mon oncle, mon papa, il est décédé déjà, mais mon oncle, qui est comme un père pour moi, il a 85 ans, et quand je vais l'appeler après ce voyage, il va être tout content de savoir que j'étais parmi son peuple. Voilà. Je retourne à la source quelque part. Physiquement, ce matin, je retourne à la source de mon peuple, de mes ancêtres. Mais j'aimerais aussi parler de la source spirituelle ce matin. Et il y a un passage favori dans le Nouveau Testament que j'aime beaucoup, c'est en Jean 4. C'est quand Jésus rencontre la femme samaritaine. Et on veut plonger un petit peu ce matin dans ce passage de la Bible. Et on va parler des rencontres. Voilà. Et quand Jésus rencontre la femme samaritaine, mais on découvre beaucoup de choses là. Tout d'abord, il y a un missionnaire qui a expliqué qu'il y a trois types de rencontres qui jouent un rôle clé dans le salut d'une personne. Il y a une rencontre de vérité. Il y a une rencontre de puissance et il y a une rencontre d'amour. Rencontre de vérité, de puissance et d'amour. Et donc, on va parler de la première rencontre de vérité d'abord. Rencontre de vérité, c'est la dimension qui touche ce que les gens comprennent de la personne et du message de Jésus. C'est ce qui est la compréhension de le message de Jésus, parfois où il y a l'ignorance, où peut-être il y a une erreur de compréhension. Et les gens, la rencontre de vérité, c'est quand les gens rencontre Jésus en qui il est. Et dans cette rencontre, il y a cette rencontre, mais on a déjà parlé des trois rencontres, donc je vais les afficher. Rencontre de vérité, de puissance, d'amour. Et là, je parle de rencontre de vérité. Et c'est quelque chose qui touche à la plausibilité de l'Évangile. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce gros mot-là? La plausibilité, ça veut dire, est-ce vrai? Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Est-ce que ça peut tenir quand il y a le vent et la tempête, etc.? Est-ce que ça va tenir? Est-ce vrai? Est-ce que c'est quelque chose que je peux comprendre dans, dans ma tête, dans mon intelligence? Est-ce que je peux comprendre ça? Mais oui, on ne va pas tout comprendre, parce qu'en tant que chrétien, on grandit au fur et à mesure, n'est-ce pas? Hein? On grandit petit à petit. Mais est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons comprendre? Mais bien sûr que oui. C'est quelque chose que nous pouvons comprendre, parce que quand ma famille en Louisiane s'est convertie, a découvert une relation avec Jésus-Christ, mais c'était le bouleversement dans la famille. Ça a changé, ça a transformé la famille. Ma maman, elle a eu une expérience radicale avec Jésus. Et quand elle a été sauvée, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit, soit elle a pété le plomb, comme on dit en Belgique, soit elle est devenue coucou, soit c'est quelque chose de vrai. Il faut que je voie ça. Il faut que j'observe un petit peu. Et pendant plusieurs mois, j'ai observé ma mère, qui était une femme avant, qui était malheureuse, qui était parfois méchante, qui était quelqu'un, si tu la croisais comme ça, elle allait te donner une bonne bouche de parole, hein, une bonne bouche même de profanité. C'est une femme qui fumait 3 paquets de cigarettes par jour en plus. Elle était accro, addict à la nicotine. Et puis, quand Jésus est entré dans sa vie, oh, le bouleversement total. Elle a tout changé. Elle commence à chanter. Ma maman, elle ne sait pas chanter, mais elle a chanté quand même. Voilà, ça va, hein? Elle était remplie de joie, de paix, d'amour pour nous, ses enfants, pour son mari. Elle a été transformée. Elle commençait à mettre, vous voyez, les petits post-it. Les petits post-it qu'on met là, et là, et là. Les petits post-it. Elle écrivait des versets bibliques. Elle mettait des post-it partout dans la maison. J'ouvre le placard, il y a un verset. J'ouvre le frigo, il y a un verset. J'ouvre le congélateur, il y a un verset. Je vais dans la salle de bain, il y a un verset sur le miroir. Il y a des versets partout. Non, Jésus a bouleversé sa vie. Et j'ai dit, OK, il y a quelque chose là, je dois voir. Je dois voir. Elle m'a invité avec elle à l'église. Mais comme ma grand-mère était toujours vivante, elle m'a dit une fois, parce que tous les week-ends, tous les fins de semaine, on allait dormir, coucher chez grand-mère. On passait le week-end chez grand-mère et papa et maman. Et puis maman me dit une fois, Blair, je veux te dire quelque chose. Je ne veux pas que tu ailles dans cette église là où ta maman est. Parce qu'ils ont fait, ils lui ont fait le lavage de cerveau. J'ai dit, OK, ça va, whatever, maman, maman. Mais je ne pouvais pas m'éloigner du fait que ma maman était changée. Elle était tellement différente et en bien, pas en mauvais, en bien. Et alors, un soir, elle m'a invité, elle ne m'a jamais forcé, mais elle m'a invité à nouveau. Je suis allé avec elle. Et pour la première fois dans ma vie, j'ai entendu l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. J'entrais dans la salle, comme vous ce matin, je voyais ça chez vous ce matin, les gens s'aimaient les uns les autres. Ils s'embrassaient, ils s'aimaient comme une famille. Et comme moi, j'ai grandi dans une famille très dysfonctionnelle, très dysfonctionnelle. Mon papa, il était alcoolique, ça a détruit la famille. Bref, les gens qui s'aimaient comme une vraie famille. Et puis, quand ils ont commencé à chanter et louer le Seigneur, je voyais qu'ils aimaient pas seulement les uns les autres, mais qu'ils aimaient leur Dieu avec tout leur cœur. Et là, j'étais mûr pour « ripe for the picking », comme on dit en anglais. Hein? J'étais mûr comme un fruit qui est sur l'arbre, prêt à accueillir. J'ai entendu l'évangile, le pasteur a donné un appel et je me suis trouvé à l'hôtel. Et Dieu est venu vers moi, Jésus. J'avais seulement 12 ans. Mais il a bouleversé ma vie aussi. Et depuis lors, I'm trucking with Jesus. Parce que j'ai entendu l'évangile et ça a connecté avec mon esprit. C'était une rencontre de vérité. J'écoutais le pasteur et dans mon cœur et dans mon intelligence, je me disais, c'est vrai, mais c'est vrai ça. Mais oui, je comprends, c'est vrai, l'amour de Dieu, Jésus est venu pour me racheter de la main de l'ennemi et pour me réconcilier avec le Père afin que j'aie la vie éternelle et que je puisse vivre la joie, la paix et l'amour que maman a maintenant. C'était une rencontre de vérité. Et dans ce passage, on parle d'une rencontre de puissance. Une rencontre de puissance. Comment se manifeste une relation réelle avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Ça tourne autour du combat spirituel. On a chanté, c'était la chanson en anglais... The water my enemies drown. The praise is the water my enemies drown in. Ça tourne autour de combats spirituels dont le but est une libération en Jésus de la captivité de Satan. Amen. Comme c'est la réponse à la question comment cette relation devient réelle dans la vie de l'individu, dans la vie de la personne. Comment ça devient réel? Comment ça se manifeste à l'extérieur? Parce qu'on dit que Jésus, il entre dans le cœur, il change à l'intérieur pour que ça manifeste à l'extérieur. Parce que si on garde ce qui est fait à l'intérieur de nous et on le garde juste comme ça et on ne le dit pas et on ne le partage pas et on ne le montre pas, mais on n'est pas parti de le grand commandement, comme on dit le Great Commission en anglais. Il y a une puissance. C'est la tangibilité de l'Évangile. C'est tangible, je peux le toucher, je peux le voir avec mes yeux. Ce n'est pas seulement ici, mais ça se manifeste. Je commence à servir les autres, je commence à prier pour les autres, je commence à témoigner de ma foi, je commence à servir dans mon église et dans la communauté autour de moi. Quand les gens ont des problèmes, quand le voisin a des problèmes, j'offre de prier pour le voisin. Quand je prie pour le voisin, je vois qu'il y a un effet spirituel. Une rencontre de puissance. Et puis, une rencontre d'amour. Comment un individu s'engage dans une alliance, un covenant, une alliance avec Dieu? C'est la partie qui parle du dévouement, le désir de connaître Dieu. Et ces trois rencontres, rencontres de vérité, de puissance et d'amour, se retrouvent ici dans le passage en Jean 4. On va regarder ensemble. À partir de verset 7, là, la rencontre de vérité, qu'est-ce que la Bible nous dit? Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire aussi. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment ça? Toi qui es juif, tu me demandes à boire. À moi qui suis une femme samaritaine. » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. C'était la haine contre les deux groupes. Ils n'aimaient pas, ils ne s'aimaient pas du tout, les Juifs et les Samaritains. Alors, dans le temps de la Bible, quand un Juif devait aller quelque part d'une ville à une autre, et ça passait, la route passait par la Samarie, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il contournait la Samarie pour ne pas traverser dans la Samarie tellement il n'aimait pas les Samaritains. Donc, ça allait prendre deux fois plus de temps, mais c'est ce qu'il faisait, parce qu'on ne passe pas la Samarie. Alors, il y a un juif, en plus, c'est un homme qui parle à une femme samaritaine. Ça ne se fait pas non plus dans la culture. C'est tabou, ça. Ça ne se fait pas. Mais Jésus entre en dialogue avec la femme afin de l'attirer vers une relation profonde avec lui comme le Sauveur. Et puis si on va dans le verset 10, Jésus lui répondit, « Si seulement tu savais qui ou quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné l'eau vive. » Et dans le passage là, vous savez que la Bible a été écrite en grec, le Nouveau Testament en grec, l'eau vive. Qu'est-ce que ça veut dire, l'eau vive, dans la langue originale? Ça veut dire que ce n'est pas l'eau qui est juste dans un pot ou dans une gourde ou dans, même dans un étang, mais c'est l'eau qui coule. C'est l'eau qui coule comme dans un fleuve, comme dans un ruisseau. C'est l'eau mouvementée qui bouge, c'est l'eau fraîche qui bouge, ça c'est l'eau vive dans les Écritures. Et elle ne comprend pas ce qu'il dit l'eau vive, parce qu'elle est au puits, c'est un puits. Et ils vont puiser l'eau du puits pour boire. Hein? Elle ne capte pas. Elle ne connecte pas encore. Elle est toujours dans son petit monde, à elle. Mais ce n'est pas grave. Jésus va l'amener petit à petit. Et parfois, c'est comme ça avec nos amis, nos familles et tout. Jésus les amène petit à petit. Amen. Voilà. Alors, on continue. verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits, il est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Comment tu vas me donner cette eau vive? Moi, j'ai mon bucket ici, j'ai mon seau. Moi, je vais descendre mon seau dans le puits, je vais remplir mon seau et j'aurai de l'eau à boire. Mais toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Comment tu vas m'offrir l'eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Qui es-tu pour me dire que tu vas me donner l'eau? Attention, tu es en Samarie ici. Tu es chez les Samaritains ici. Tu n'es pas chez toi. Comment tu vas me donner l'eau? Tu n'as pas un seau. Tu n'as rien dans tes mains. Comment tu vas me donner de l'eau vive? Hein? Vous voyez comment ça se connecte chez elle ici? Elle est en route vers la vérité, mais elle n'est pas encore arrivée. Elle est en route. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais, plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Qui jaillira de l'intérieur vers l'extérieur. La femme lui dit, Seigneur. Ah, mais non, elle l'appelle Seigneur. Avant, elle ne disait pas ça. Ah, donc il a connecté là avec l'intelligence. Il commence à connecter là aussi, dans le cœur. Hein? Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser. Mais elle a contourné un peu. On dit en Belgique, elle a dérapé. Elle a dérapé un peu. Elle était sur la bonne ligne. Mais là, elle a dérapé un peu, parce qu'elle dit, « Ok, je veux ça, je veux ce que tu m'offres, ce que tu me proposes, comme ça, je n'ai plus besoin de monter jusque ce puits et de puiser et de prendre l'eau qui est lourde et avec mes seaux et d'aller à nouveau chez moi dans la maison pour me laver, pour cuisiner et tout ça. Ah !» Tu peux faire un petit trick, un petit quelque chose? Ah, mais oui, je veux bien ça, moi. Je veux bien ça, moi. Mais Jésus, il sait où il va dans la conversation. Lui, il n'est pas dérapé. Il sait où il va. C'est exactement où il va. Et il dit à la femme, « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « J'ai pas de mari. J'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « T'as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car t'as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant, n'est même pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. La vérité, une rencontre de vérité. Mais aussi une rencontre de puissance. Parce que quand il lui dit ça, oh là là, comment il ne connaît même pas mon nom. Comment il sait ces choses intimes de ma vie? Comment il sait ça, lui? J'ai cru qu'il était peut-être un magicien, qu'il allait faire un trick et faire apparaître l'eau comme ça, et j'ai plus besoin de chercher l'eau dans le puits. Mais maintenant, c'est beaucoup plus qu'un magicien, ça. Oh, c'est beaucoup plus que ça. Il a lu son courrier sans l'ouvrir. Comme on dit en anglais, he read her mail without even opening it. C'est quelque chose. On continue. Seigneur, elle l'appelle maintenant toujours, toujours Seigneur, lui dit la femme. OK, elle a réfléchi un petit peu, mais il n'est pas juste un juif, OK? Il n'est pas un magicien, OK, mais ça doit être un prophète alors. Ça doit être un prophète. Je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous les juifs, vous les juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mes pères adoraient ici à la montagne. Vous les juifs, c'est dans la ville de Jérusalem. Alors c'est quoi? C'est lequel? Tu vois, elle tourne comme elle n'est pas convertie. Dans la conversation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait référence aux choses spirituelles qu'elle connaît. C'est tout ce qu'elle connaît. La ville ou la montagne pour adorer. Moi, quand je parle avec mes voisins en Belgique, j'ai rencontré ma voisine à côté. Et puis elle me dit, quand je suis arrivé, elle me dit, Blair, mais tu fais quoi dans la vie? Je lui dis, moi, je suis pasteur. Ah? C'est quoi, pasteur? Comme dans l'église protestante? J'ai dit, oui, comme dans l'église protestante. Oui? Ah! Et puis je cause avec elle. Ma voisine, elle me dit, mais moi, je suis rien. Je crois en rien. D'accord. Moi, je crois. Je suis croyant. À fond. Et puis elle me dit, non, mais ma maman, elle était catholique non pratiquante. Mon papa, il était juif non pratiquant. Alors les enfants, on a grandi avec rien. On ne croit en rien. Alors je lui dis, ah, mais c'est OK, mais c'est un bon point de départ. On peut commencer là. Et puis elle me dit, mais Blair, tu crois Adam et Ève et tout ça? Toute cette histoire. Ben, j'ai dit, oui, j'y crois. J'y crois. Fermement, j'y crois. Ah, mais pour moi, non, c'est une belle philosophie, mais pas plus que ça. C'est une belle philosophie, mais pas plus que ça. J'y crois. Et puis, on discute. Et je la revois de temps à autre sur le trottoir, devant la maison. Et puis un jour, on discute. Et je dis, mais écoute, moi, je vais prêcher dans une église protestante dimanche. C'est pas loin d'ici, à 20 minutes de route. Est-ce que tu veux venir découvrir, m'écouter moi? Parce qu'on a construit une amitié là, tu vois? Est-ce que tu veux venir m'écouter? Ben oui, pourquoi pas? OK. Elle est venue. Elle s'est assise à côté de ma femme. On commence à chanter, comme on a chanté ce matin. Et puis, les chansons, la musique, l'Esprit de Dieu est là. Elle commence à pleurer. Puis j'ai prêché. J'ai prêché sur le discipulat, être disciple de Jésus, la formation des disciples. Et j'ai prêché sur la relation entre Paul et Timothée dans la Bible. Et que Paul était comme un père spirituel à Timothée. Et puis à la fin de la réunion, elle est venue me voir. C'était étonnant, ça. J'ai jamais vu quelque chose de pareil. Mais les chansons et ton speech, elle dit. Mais Blair, elle me dit, Blair, je pense que tu es mon Paul et moi je suis ton Timothée. Et puis je lui dis, correct. C'est bien ça. Mais est-ce qu'elle est encore, elle n'est pas encore convertie, elle n'est pas encore sauvée? On continue la relation. Elle sonne à la porte il y a quelques semaines. On pleure. Son petit chien est mort et puis sa maman est morte dans le même espace de temps. Je dis, eh bien, on va prier. Donc, on prie pour elle. Seigneur, que tu viennes, que tu la touches, que tu la convainc de ton amour, de qui tu es. Que tu la convainc que tu veux une relation personnelle avec elle. Donc, on a prié pour elle. Pas encore sauvée, pas encore convertie, mais c'est un travail de longue route, de longue haleine. Ici, Jésus voit tout de suite la femme qui dit, « Oh, mais c'est lequel? Vous dites là, nous disons là, mais c'est quoi ça? » Jésus lui dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Pas dans une ville nécessairement, pas sur la montagne nécessairement. Ce n'est pas le lieu qui compte. Qu'est-ce qui compte? C'est en esprit et en vérité. C'est ce qui compte. En esprit et en vérité. On voit, on a vu la rencontre de vérité, la rencontre de puissance quand il a lu son courrier sans l'ouvrir. Et maintenant, on voit arriver une rencontre d'amour, le troisième. La femme lui dit, « Mais je sais que le Messie doit venir. » Parce que même les Samaritains et les Juifs, tous les deux croyaient, attendaient le Messie. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera tout. Moment clé. Jésus, il l'a exactement où il voulait l'avoir. Et puis il dit, « Je le suis. » moi qui te parle. Bouleversement. Parce qu'elle est en train de réfléchir à tout ce qu'il a dit. Vérité, puissance, amour. Et puis il a dit, il l'amène là où il veut qu'elle soit. Et puis il dit, moi qui te parle, je suis le Messie. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle est bouleversée. Et le passage nous dit, plus tard dans le chapitre 40, verset 42, qu'est-ce qu'elle a fait? Immédiatement, elle a laissé son bucket, son seau, elle a laissé son seau là à côté du puits, elle est allée dans son village pour dire à tout le monde, écoutez, 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 j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit, qui a tout dit sur ma vie. Est-ce que ça peut être le Christ, le Messie qu'on attendait? Et puis les villageois, tous qui habitaient le village, c'est la femme de mauvaise réputation, hein? On la connaît, on connaît son histoire, mais on n'a jamais vu pareil là. On va voir ce qu'elle dit, on va le rencontrer. Et puis, au fur et à mesure, la Bible nous dit qu'à la fin, tout le village est venu pour dire, nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Attention, ils n'ont pas dit le sauveur des Samaritains ou le sauveur des Juifs. Non, ils ont compris qu'il était le sauveur du monde. Et tout ça grâce à une rencontre avec une femme de mauvaise réputation dans le village. Mais Jésus l'a rencontrée et il a fait un download. Il a fait un download de la vérité, de la puissance de qui il est et de l'amour qu'il avait pour le monde en tant que Messie. Alors, je vous laisse avec quelques points. Que nous soyons prêts à donner une raison plausible pour cet évangile que nous croyons. Que quand les gens nous posent la question, pourquoi tu crois en Jésus? Que nous soyons prêts à répondre à cette question. Que nous soyons sensibles à la petite voix de l'Esprit Saint qui nous guide dans la journée et qui va nous dire, attention, attends, attends un peu. Là, celui-là ou celle-là, ils ont besoin de la prière. Ils ont besoin d'une main. Ils ont besoin d'être aidés. Hein? Que nous soyons prêts, que nous puissions saisir les occasions que le Saint-Esprit nous présente de jour en jour. Moi, je suis convaincu d'une chose. Toutes les semaines, le Saint-Esprit a des rendez-vous divins pour nous. Et que nous soyons à l'écoute pour les saisir. Que nous évoquions, deuxième, que nous évoquions un désir à connaître Jésus que nous proclamons. Mon autre voisin, parce qu'on habite dans une maison mitoyenne, ça veut dire les murs sont attachés, a row house in English. Hein? A row house, comme ça, hein? Ils sont attachés l'une à l'autre. Non? Il n'y a pas de jardin devant, il y a le jardin derrière, et comme ils sont attachés l'une à l'autre, ça va comme ça, et pas comme ça. Ça va en haut, là. Donc, on a beaucoup d'escaliers dans notre maison. Et le jardin en arrière, il est long, il est profond, mais il n'est pas large. C'est juste la largeur de la maison. Vous voyez? Et donc, la voisine dont je vous ai parlé, du côté gauche, mais il y a un couple de côté droit. Et là, moi, j'aime le jardinage. Philippe, j'aime le jardinage. Planter, arranger, hein, c'est mon hobby, ma détente, je me déstresse when I can dig in the dirt. Hein? Et le couple en face, mais on pose la question, « Ah, mais qu'est-ce que vous êtes nouveau, vous arrivez dans le voisinage, dans le quartier, mais qu'est-ce que vous faites ?»« Mais je suis pasteur. »« Je suis pasteur. »« Ah bon ?» Et puis, on va dans le jardin, et puis on discute à travers la clôture. Hein? Parce qu'en Belgique, tout le monde a une clôture. Hein? Et il y a des haies qui poussent, hedges, des haies qui poussent. Parce que les Belges, ils aiment bien leur petit privé. Hein? J'ai grandi en Louisiane, les jardins de l'un et l'autre, ça se touche. Et les enfants courent comme ça dans les jardins des voisins et tout ça en Louisiane. Mais là, en Belgique... Alors, on parle à travers la clôture. Et puis, la dame me dit, oh, « Mais tu es pasteur. J'ai plein de questions de la Bible. Ce n'est pas une athée comme l'autre voisine, mais elle croit, mais elle a plein de questions qu'elle ne comprend pas de la Bible. Blair, est-ce qu'on peut discuter de temps en temps? » Bien sûr. Ah, bien sûr que oui. On peut discuter de temps en temps. Que nous évoquions par nos vies un désir de connaître ce Jésus que nous proclamons. Et finalement, que nos vies et que nos témoignages puissent montrer de manière tangible ce que c'est de suivre Jésus. How does that look? De suivre Jésus. Ça se comporte en quoi? Ah, OK. Mais ça veut dire qu'il y a une vie de famille en prière, il y a l'église locale où nous servons, il y a des choses que nous faisons dans la communauté, et surtout, nous sommes des gens... Écoutez, mes amis, soyez, s'il vous plaît, des chrétiens joyeux. Personne ne veut voir des chrétiens qui boudent tout le temps. Hein? Soyons les chrétiens joyeux qui suscitent une joie chez les autres. Que les autres soient intrigués par nos vies. What makes you tick, Blair? Ah, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es toujours joyeux? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça? Quand je parle avec mes voisins, je référence le Seigneur, souvent. Pourquoi il dit Seigneur tout le temps? Pourquoi il dit Dieu tout le temps? Ils vont commencer à gratter avec des questions. Et puis quand ils grattent, mais on leur donne la réponse. Mon pasteur en Belgique disait, pour gagner des Belges, sont réservés, hein, vraiment réservés, il faut faire comme avec les pigeons. Tu mets un peu de grain dans ta main et tu vas faire comme ça. Et tu vas attendre un petit peu. On a beaucoup de pigeons en Europe. Hein. Toutes les villes en Europe, c'est rempli de pigeons. Et là, tu mets les grains comme ça, et puis les pigeons viennent, ils commencent un petit peu, ils prennent un petit peu, ils s'en vont. Ils prennent un petit peu, ils reviennent, ils s'en vont. Et donc mon pasteur en Belgique disait, c'est comme ça avec les Belges parfois. On donne un petit peu, ils vont manger ça là ailleurs, et puis ils vont revenir et prendre un petit morceau, manger, et puis ils vont réfléchir. Que nos vies soient des témoins, des témoignages. Donc la dernière question pour vous ce matin, c'est simplement ceci. Es-tu passé par ces rencontres de vérité, de puissance et d'amour avec Jésus-Christ? Es-tu passé par ça? Si c'est le cas, tant mieux, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas pour toi ce matin, je veux te dire simplement, je ne vais pas faire un grand spectacle, je vais te dire simplement qu'après le service, je suis là. Si tu veux en parler, si tu veux avoir la prière, si tu veux me dire quelque chose et que je prie pour toi, je suis tout à fait là pour prier avec toi. Si tu as entendu quelque chose qui t'a touché dans l'esprit, dans le cœur ce matin, je suis là. Merci pour l'équipe de louange. Je suis là. Je suis prêt à prier, à encourager dans les étapes de la vie chrétienne. En tout cas, je vous remercie pour cette occasion d'être parmi vous. J'aimerais juste prier pour vous pour conclure. Seigneur, nous te remercions parce que tu as été là ce matin avec nous. Tu nous as parlé, Seigneur, de ton amour, de ta puissance, de ta vérité. Et Saint-Esprit, nous te disons que tu es le bienvenu pour continuer ton œuvre en nous. S'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui ne te connaît pas encore, je te prie que tu les aides à franchir le pas, à prendre cette décision de te suivre, de t'accepter comme leur Seigneur, et le maître de leur vie. Je te prie, Seigneur, que tu sois avec nous tous dans la semaine qui vient, que tu nous aides à être sensibles à ta voix, que tu marches avec nous et que tu nous donnes des opportunités divines, des rendez-vous divins, afin que nous puissions proclamer, partager, encourager, prier avec les gens. Nous voulons voir notre communauté touchée à Shédiac et ailleurs, touchée et transformée par ta grâce et ton amour. Et nous te prions dans le beau nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, qui est le Sauveur du monde. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse.